Chapitre 5. C'est positif que maman avait l'air tout à fait mécontente, se disait la jeune femme quand elle se retrouva dans son coupé, vers les 6h30, seule et libre enfin de penser, après l'accomplissement de l'ahurissant programme qu'elle avait formulé elle-même rue de Montalivet. Elle avait bien pu, sur le moment, défier des yeux sa mère, mais sans mettre dans cette bravade l'outrageant soupçon que la conscience soudain éveillée de cette mère avait cru y lire. Et elle se posait des questions qu'elle n'arrivait pas à résoudre. Est-ce que vraiment Maxime aurait raison? Ce monsieur Bassini serait venu le dénoncer à maman? Mais non, ce serait inconcevable d'oser une pareille démarche auprès de quelqu'un que l'on connaît à peine. Elle avait quelque chose contre nous, c'est certain. Tant pis, je lui demanderai pourquoi elle a été si contrariée que je marche quelques pas avec Maxime. Si elle me répond que Maxime a parlé de moi avec un de ses amis du cercle, alors je croirai que c'est ce Bassini. Bassini ? Bassini ? Elle se répéta plusieurs fois ce nom qui n'avait d'abord éveillé en elle aucun souvenir. Quelque chose d'informe et d'inatteignable remua au fond de sa mémoire, dans ces ténèbres où dorment nos plus lointaines impressions d'enfance. L'ancien amant de Madame Janson avait subi le sort commun à tous les disparus dans ce monde parisien où les sentiments sont si momentanés, si attachés au jour et à l'heure, à la présence immédiate, au plaisir ou au déplaisir actuel. Nicole avait pu passer de longues années auprès de sa mère sans que l'on mentionnât même une fois devant elle l'existence de cet homme, jadis un des familiers de cette maison. Cet oubli total n'avait pourtant pas été absolument immédiat. Si invisible qu'une pierre doive dormir dans l'abîme d'un lac, elle émeut l'eau d'un frisson à la minute où elle y tombe. De même, et dans le plus indifférent milieu, quelques vagues de curiosité s'éveillent toujours autour du nom d'un absent, des « pourquoi ne le voit-on plus ?», des « que devient-il ?», des « que fait-il ?», et les réponses malveillantes ne manquent guère à ces points d'interrogation. Si Nicole, jeune fille, n'avait jamais entendu nommer Bassini, plusieurs fois, quand elle était enfant, on en avait parlé et mal parlé devant elle, et voici que, tout d'un coup, sa mémoire s'éclairant de lueurs plus distinctes, un autre détail ressuscité, non moins incertain, non moins énigmatique. Nicole se revit, elle n'aurait su dire dans quelle année, mais que c'était loin, jouant aux Champs-Élysées avec une petite amie. Elle n'aurait su dire non plus quelle amie, tant cette réminiscence s'estompait d'une brume épaisse. Elle courait, poussant un cerceau devant elle, et tout d'un coup, elle avait été saisie par un passant qui l'avait arrêtée en répétant son nom et en lui caressant les cheveux. Il lui semblait sentir encore les doigts de cet homme sur ses boucles souples, tant le tremblement de cette main l'avait étonnée. Cet homme l'avait embrassée, elle se rappelait l'impression de sa joue humide sous les larmes qui coulaient des yeux de cet inconnu. La silhouette de ce passant lui revenait, à cette seconde, avec une obstination inexplicable. L'inconscient travail de son esprit associait le Bassini vieilli d'aujourd'hui au Bassini d'alors, car c'était bien lui qui, une fois, une seule, rencontrant à la promenade, sa fille, âgée d'à peine 4 ans, n'avait pu se retenir de la prendre dans ses bras. Comment la jeune femme eut-elle reconstitué le travail d'idées qui lui faisait retrouver les traits de ressemblance entre deux images qu'elle ne pouvait identifier, ni même rapprocher? Cet obscur travail, accompli en elle à son insu, n'en était pas moins irrésistible, et toujours, elle retombait à une même conclusion. « De quoi est venu se mêler ce monsieur? C'est vrai qu'il connaît maman. Elle l'a appelé « chère amie » maintenant que j'y pense. » Je rêve, il était venu lui parler d'autre chose. En la quittant, il y a encore fait allusion. Maman m'a suivi, voilà qui est certain. Elle n'avait pas l'air content, voilà qui est certain encore. Bah, ce sera quelque conversation avec Albert. Que je suis sotte, c'est Albert qui est la cause de tout. Depuis plusieurs jours, il me parle à peine. Il doit être jaloux de Maxime. Par exemple, s'il est allé se plaindre de moi chez maman, ce que je le rattraperai, un mari qui est bien avec sa belle-mère, c'est toujours terrible. Comme on voit, une entente très cordiale ne régnait pas entre Albert de Moniaux et sa jeune femme. L'histoire de ce ménage reproduisait l'histoire de 100 ménages semblables, chez lequel le principe de discorde n'est ni dans le cœur du mari, Albert était un très loyal et très brave garçon, ni dans le cœur de l'épouse, Nicole avait toutes les qualités de droiture et d'élan qui semblent une sûre garantie contre d'irréparables écarts. L'un et l'autre étaient les victimes du mal dont souffre en France toute la haute classe depuis ces 20 ans que noblesse et fortune deviennent chez nous synonymes d'oisiveté. Moniaux, ayant cru devoir à son nom de n'entrer dans aucune carrière publique, ses facultés inemployées retombaient sur son intérieur. Cet homme qui, dans un métier quelconque, eût été, par les traits essentiels de sa nature, précis, actif et consciencieux jusqu'aux scrupules, devenait, dans son absolu loisir, tatillon, minutieux, un peu difficultueux. Surtout, il ne donnait aucun aliment d'intérêt à l'imagination ou à l'activité de sa jeune femme. Elle ne pouvait vraiment s'associer en pensée à des ambitions dont la plus haute consistait à avoir des voitures plus correctement attelées que celles du comte de Candale ou du baron Bozé, ni à des travaux qui n'en étaient point. Monter à cheval au bois le matin, vers 1 heure, déjeuner ensemble, l'après-midi, aller, lui, au club, aux courses, ou faire quelques visites, elle, employer ses heures d'après le programme exposé devant Bassigny, à 8 heures, se retrouver à dîner, puis, pour la soirée, au théâtre ou dans le monde, telle était leur vie, une vie d'une fantaisie très amusée en apparence. En réalité, leurs deux caractères y jouaient trop directement et de trop près l'un sur l'autre. Il faut être un homme bien supérieur ou une femme bien éprise pour que ce contact continu entre deux personnalités, sans le dérivatif d'un but extérieur, n'aboutisse pas à des heurts, à des lassitudes. C'était encore là un des atouts de Portille dans la partie qu'il avait engagée avec Nicole. Il l'amusait. Il était autre qu'Albert, dont les qualités de droiture et d'exactitude n'étaient plus perceptibles à la jeune femme à cause de l'accoutumance, au lieu qu'elle sentait trop vivement ses défauts. Une tendance constante aux préjugés conventionnels pour les choses de la vie sociale, un excès d'autorité dans les choses de la vie familiale, peu de mouvement dans l'esprit. Qu'un mari de cette espèce et dans ces circonstances s'avise de devenir jaloux, il porte du coup sa femme à des extrémités de révolte. Aussi, Nicole n'eût-elle pas plutôt imaginé son mari comme le véritable auteur de la dénonciation à sa mère qu'elle admit aussitôt cette hypothèse et elle regagna la maison dans une très mauvaise humeur. Le premier résultat de la tentative de sauvetage entreprise par Bassigny faillit être une scène entre les deux époux que la longanimité de Moniaux fit seule avorter. « Qu'avez-vous fait de votre après-midi » demanda-t-il bien simplement à sa femme dans la voiture qui les emportait au café anglais. Chaque soir, quand ils se retrouvaient, il posait à Nicole cette question et chaque soir aussi, Nicole était un peu mécontente de cet interrogatoire, pourtant très innocent. Cette fois, elle voulut y trouver une preuve que son pressentiment ne l'avait pas trompée et qu'Albert, qui critiquait souvent les manières et le ton de Portille, commençait à se défier de lui. L'accent de sa réponse trahit une secrète irritation. « Avouez, dit-elle, que vous avez de la chance d'avoir épousé quelqu'un d'aussi bon enfant que moi. » Puis, comme il la regardait avec surprise, « Mais oui, vous la trouvez très aimable, vous, cette inquisition quotidienne sur mon emploi de la journée. Comme vous prenez mal une preuve toute naturelle de mon affection, fit Albert de Moniaux. » Puis il crut devoir ajouter, avec la fermeté d'un homme qui entend maintenir son droit, « Et vous-même, trouvez-vous abusif de la part d'un mari qu'il tienne la main à ce que sa femme ne vive pas séparée de lui, comme il arrive pour tant de ménages que nous connaissons ?»« Ce sont les plus heureux, » dit-elle vivement. « D'ailleurs, puisque vous voulez, » et elle souligna le mot, « savoir ce que j'ai fait et qui j'ai vu, je vous contenterai. » Et elle commença de répéter le détail de ses allées et venues, tel qu'elle l'avait déjà donné à sa mère, avec détail sur détail, tous plus inutiles les uns que les autres, sur un ton agressif qui devint réellement insolent pour prononcer cette phrase. « Là, chez maman, j'ai rencontré Maxime, avec qui j'ai fait un bout de chemin à pied jusqu'à l'antiquaire de la rue de la Paix. » Elle demeura tout étonnée que Monio n'eût même pas tressailli. « Il n'est pas jaloux de Maxime, ce n'est donc pas lui qui a parlé à ma mère, » se dit-elle. L'image de Bassini reparut devant sa pensée, plus mystérieuse que jamais, au point que, cessant de chercher chicane à son mari, à son tour elle l'interrogea. « J'oubliais, il y avait rue de Montalivet un certain monsieur Bassini. Le connaissez-vous ? Je crois l'avoir entendu nommer au cercle, » dit Albert, qui, de son côté, se demandait la cause chez sa femme, de cet énervement d'abord, puis de cette brusque volte-face d'humeur, et il insista. « Mais pourquoi ?»« Pour rien, » répondit Nicole, « pour savoir. » Et elle tomba dans un état de réflexion qui durait encore quand la voiture s'arrêta. Ni le dîner au café anglais, en compagnie du ménage Étorel, ni les gaietés de la comédie par où s'acheva cette soirée, ne purent la distraire de la vague inquiétude dont elle était saisie, ni même la visite de Maxime de Portille, qui, la sachant aux variétés, lui fit la surprise de se présenter dans la baignoire entre le second et le troisième acte. « Eh bien, lui dit-elle à mi-voix, tandis que Madame Étorel se tenait dans l'arrière-loge sous le prétexte d'avoir moins chaud, en réalité, pour assurer un tête-à-tête à sa jolie amie et à son amoureux, une de ces mille petites scènes de complicité spontanée qui s'improvisent chaque soir entre femmes, à charge de revanche et sans que la franc-maçonnerie du sexe ait même besoin d'un mot d'indication. Eh bien, vous aviez raison. Je crois que ce Bassini a raconté à maman votre conversation avec ce maladroit de Richardot. Mais pourquoi ? Il n'y a pas de pourquoi pour les gaffeurs, répondit le jeune homme. Nicole était si jolie dans sa robe d'un bleu très pâle, avec des applications de dentelle noire, qu'il lui dit, sachant comme toutes adorent les imprudences de la passion, avec le danger à côté sous la forme d'un mari qui pourrait bien surprendre un mot et mettre le drame dans une idylle, presque naïve quelquefois, c'était le cas ici, « Que vous êtes belle ce soir et que je vous aime !» Et comme elle le regardait avec une supplication de prendre garde, « Ah » continua-t-il, « aujourd'hui, c'est votre mère à qui l'éveil est donné. Demain, ce sera le tour de quelqu'un d'autre. » Il indiqua du coin de l'œil Albert de Monio, qui, fort heureusement, lorgnait de notre côté de la salle. « Il faut bien que vous me laissiez jouir de mon reste. Qui sait si vous pourrez continuer à me recevoir chez vous seulement ?»« Je voudrais que l'on s'avisât de m'en empêcher, » répondit-elle. « Allons, soyez sages, je le veux. » Et c'est toujours non pour la rue du Mont-Tabor et la visite que vous savez, demanda-t-il avec une flamme dans ses prunelles qui sauvait l'impudence de sa question. « Plus que jamais, » fit-elle, et tout haut, car devant l'ardeur des yeux de Maxime, un petit frisson de peur l'envahissait, la délicieuse peur que le désir de l'homme trop violent, trop avoué, fait courir dans les veines de celle qui l'inspire et qui va le partager. « Voulez-vous me passer la lorgnette, Albert ? Je crois reconnaître Madame de Candale. Mais oui, c'est elle, je ne la savais pas revenue. » Mes affaires avancent, songeait Portille, en s'en allant par les couloirs du théâtre, de son pied le plus léger et fredonnant un air à la mode. Il s'était montré, il avait donné une fois de plus une de ces fausses preuves de passion qui sont, dans la poursuite féminine, comme ces mouches de métal et de plumes que les pêcheurs promènent sur l'eau, plus attirantes et plus décevantes que les vraies. Il se préparait à retrouver Richardot chez Philips, le bar élégant dont ses camarades et lui continuaient la tradition, commencée par les Casals, les Bohun, les Machaud, tous les grands viveurs de la précédente équipe. Le Bassini pourra raconter à la maman ce qu'il voudra. Plus on essaiera de monter Nicole contre moi, maintenant, plus vite elle marchera. Avec ce flair particulier que possèdent les séducteurs, ces hommes qui semblent créés et mis au monde pour la conquête de la femme et qui, souvent, ce don excepté, et comme ce sens spécial, sont si médiocres, si sots, si vulgaires, Maxime y voyait très juste dans la situation morale de Nicole. Celle-ci en était à cette heure où l'obstacle n'est qu'une raison de sauter par-dessus et de courir plus vite au but. Et cet obstacle tentateur allait se dresser devant la volonté si facilement rebellée de la jeune femme, grâce à l'intervention de qui ? Précisément de celui qui aurait donné son sang pour qu'elle ne s'engageât pas dans cette première liaison, prologue assuré de tant d'autres. 24 heures ne s'étaient pas écoulées après la démarche de Bassigny rue de Montalivet que cette première tentative du vrai père pour sauver sa fille avait déjà produit ce résultat inattendu. Voici comment Madame Janson, ainsi qu'elle l'avait annoncé, n'osa point parler directement à sa fille. Pour des motifs de diplomatie féminine qui tenaient aux complications de sa vie, elle suivit le plan qu'elle avait exposé à son ancien amant. Elle s'adressa, se croyant très adroite, à son mari, à cet honnête homme dont elle avait fait, en 25 ans de mariage, son premier domestique. Sur ses conseils, celui-ci alla, dès le lendemain matin, répéter à leur commun beau-fils la leçon que lui avait dictée sa femme. De différents côtés, il leur était revenu à tous deux que l'intimité de Nicole avec Maxime de Portille faisait jaser. Ils avaient bien pensé, Madame Janson et lui, à prévenir la jeune femme, mais ils avaient réfléchi et ils avaient cru que, venant du mari, l'observation serait plus efficace. Il ne s'agissait de rien de grave, et quand Nicole se rendrait compte que son attitude et ses manières étaient mal interprétées, d'elle-même elle en changerait. Qu'il se gardât bien, d'ailleurs, de rompre absolument avec Portille, ce qui provoquerait de nouveaux racontars. Bref, ce fut un de ces discours de beau-père à gendre dans lesquels tout est calculé, pesé, mesuré, de la manière la plus raisonnable, tout, excepté les réactions de la jeune femme dont le caprice ou le sentiment est en jeu. Mais lequel de ces deux hommes soupçonnait la vraie nature des rapports de Maxime avec Nicole et le caractère de celle-ci ? Janson était un de ces personnages qui justifient le ridicule attaché, dans notre pays, au rôle de mari trompé par la complaisance étalée avec laquelle il jouissait de la beauté de sa femme, de ses succès de monde, de la félicité de leur ménage. Il avait enfin cette absence de discrétion dans la sécurité qu'expliquait aux seuls initiés l'abus des ruses parmi lesquelles on l'avait fait vivre. Madame Janson appartenait à l'école des épouses infidèles qui estiment que le plus sûr moyen d'aveugler un homme est de l'envelopper d'affection, de soins matériels, de procédés exquis. Plus elle avait d'amants, plus son mari avait été heureux par elle. Cette béatitude conjugale, répandue sur toute sa physionomie, aurait fait de l'infortuné ou du fortuné Janson, cela dépend des points de vue, un objet de moquerie, de pitié ou de calomnie, s'il n'avait été un passionné de salle d'armes et un des premiers tireurs de Paris. Le goût de ce sport, qu'il devait à des hasards d'éducation, l'avait assuré, bien à son insu, contre les conséquences, mortifiantes pour son amour-propre, qu'aurait pu avoir la légende établie autour de sa femme. Cette légende, leur gendre l'avait connue avant d'épouser Nicole. Il avait passé outre, d'abord parce que la jeune fille lui plaisait infiniment. Puis le trait dominant de sa nature était un bon sens, un peu terre-à-terre, qui le faisait se défier singulièrement des opinions du monde, et un loyal instinct de ne jamais tenir compte de ces on-dit, non vérifiés, sur lesquels vivent tant de Parisiens. Albert de Moniaud n'avait jamais cru absolument au bruit qui courait sur la mère de sa femme. Pourtant, il en gardait intérieurement, et presque à son insu, un vague malaise qui devait, dès le premier ombrage, le rendre plus jaloux de Nicole, partant plus dur que cela n'était juste et raisonnable. Si cependant ce que l'on disait de la mère était vrai, et si la fille allait lui ressembler. Il se faisait tout bas, malgré lui, ce raisonnement, tandis qu'il écoutait son beau-père sans rien répondre que des monosyllabes. Puis, pour conclure l'entretien, « Je vous remercie, dit-il, j'aviserai pas plus tard qu'aujourd'hui. Madame Janson m'a bien recommandé de vous prier d'être prudent, insista l'autre. Ne nous nommez ni elle ni moi et soyez très doux aussi, n'est-ce pas? Car il n'y a rien, vous savez, absolument rien de mal dans toute cette affaire, mais seulement un peu trop de laisser aller, sans doute, et d'étourderie. Je serai très prudent et très doux, avait répondu le mari de Nicole, et il crut se conformer à sa promesse en disant à sa femme, quand ils furent seuls, après le déjeuner pris comme d'habitude en tête à tête, l'enfant déjeunait dans la nurserie, suivant les sages principes d'éducation importés d'Angleterre. Ma chère amie, j'ai à vous parler un peu sérieusement. Promettez-moi que vous ne verrez dans ce que je vais vous demander, dans ce que je suis forcée de vous demander, aucune preuve d'une mauvaise idée à votre endroit. Mais vous savez, ou plutôt vous ne savez pas, combien le monde est cruel.
Vous n'avez pas besoin de tant de discours, repartit vivement la jeune femme, pour me dire ce que vous voulez me dire et que je crois deviner.
Elle avait appris, au cours du déjeuner, que celui qu'elle croyait son père était venu chez son mari. Cette entrevue, à une heure trop matinale, lui avait paru un peu extraordinaire. Elle avait remarqué, pendant ce même déjeuner, la préoccupation d'Albert de Moniaux. La visite de son prétendu père, la préoccupation de son mari et cette précaution oratoire, trois effets de la même cause, elle le reconnut aussitôt, et que cette cause était ce mécontentement de sa mère, averti par Bassini. L'intrusion de cet inconnu dans cette aventure irritait d'autant plus Nicole qu'elle se l'expliquait moins. Ce fut le motif pour lequel sa réplique à son mari eut tout de suite cette arrogance qui porte du coup une explication entre époux à sa pire extrémité de violence.
« Oui, répéta-t-elle, je sais que vous êtes chargé de me faire des remontrances et je sais sur quoi et je sais de la part de qui. »
« Vous oubliez que je suis votre mari, » dit Moniaux, qui, devant cette attitude, ne domina pas, lui non plus, un mouvement d'impatience. « Si je vous fais des remontrances, puisque vous appelez ainsi de simples conseils, j'entends en prendre seule la responsabilité. « Laissez-moi parler, » continua-t-il, comme Nicole allait l'interrompre. « Si vous aviez deviné de quoi je veux vous entretenir, ce serait une preuve que cet entretien est plus nécessaire que je ne croyais. » Il se tut une seconde et plus froidement. « Vous m'avez dit hier que vous aviez rencontré Maxime de Portille chez votre mère. »«
Parfaitement, » répondit la jeune femme.
« Et que vous aviez fait quelques pas ensemble en sortant de la rue de Montalivet. »«
C'est encore vrai.
Vous l'aviez prévenu que vous alliez le soir au théâtre. »«
Je l'en avais prévenu. »
Et il s'est empressé de vous y rejoindre, par conséquent, sur votre demande. J'en appelle à votre bon sens, Nicole. Supposez que quelqu'un se fût trouvé en visite chez votre mère, avec Portille et vous, qu'ensuite ce même quelqu'un vous eût croisé, vous promenant tous les deux avenue Gabriel ou rue du Faubourg-Saint-Honoré. Enfin, que ce même quelqu'un se fût trouvé au théâtre le soir, quand Portille est venu dans votre loge. Répondez-moi, en toute simplicité de cœur, que penserait ce quelqu'un et que serait-il en droit de penser, même sans malveillance ?
Il penserait ce qui lui plairait de penser, dit la jeune femme, comme je fréquente, moi, les personnes qui me plaisent à fréquenter. Je n'ai pas l'habitude, quand je ne fais rien de mal, de m'occuper du qu'en dira-t-on. Maxime de Portille était votre ami, il est devenu le mien. Sa conduite ne m'autorise en aucune façon à lui infliger un affront, et s'en serait un de changer de manières avec lui, parce qu'il a convenu à je ne sais qui d'aller faire je ne sais quel ragot à maman, à mon père et à vous. Je regrette, ma chère amie, interrompit Moniaux que la colère gagnait.
Oui, répéta-t-il plus sèchement encore, je regrette de voir que nous différons d'avis sur un point qui intéresse notre commune dignité et celle de notre ménage. Mais mon avis, à moi, n'est pas seulement le mien. « C'est celui de tous ceux qui s'intéressent vraiment à vous, et d'ailleurs, ce serait mon avis, à moi seul, que je saurais bien vous l'imposer, je vous le jure. Vous semblez ne pas vous douter que vous ne vous appelez plus Mademoiselle Janson. Vous vous appelez Madame la Comtesse Albert de Moniaux. Par conséquent, mon nom est intéressé à ce que l'on ne parle pas de vous d'une certaine manière, et je vous donne ma parole qu'on n'en parlera pas. » Il avait souligné ces derniers mots avec une énergie d'accent et de gestes qui devait ou terroriser la jeune femme ou l'exaspérer. Maîtresse de Maxime, elle aurait eu peur. Mais, de bonne foi, elle se croyait irréprochable malgré les familiarités singulièrement hardies de la cour que lui faisait le jeune homme. Elle vivait dans ce monde très libre de la haute société parisienne
où les liaisons durables sont presque admises au même titre que les bons mariages. L'indignation ne commence qu'à la simultanéité de deux ou trois intrigues, et alors elle en est comique de contraste. Naïvement corrompu, si l'on peut écrire ces deux mots, par cette atmosphère d'indulgence et de sévérité également dépravante, Nicole n'était pas loin de voir, dans sa résistance à Maxime, qui lui plaisait tant, un miracle de vertu. Aussi, la menace de son maître et seigneur de par la loi la fit-elle se cabrer du cou, comme un cheval sur la bouche de qui une main brutale a tiré, et elle répliqua, avec un sourire d'une souveraine insolence, « Je serais curieuse de savoir le moyen que vous emploierez. Je me proposais de vous demander de recevoir moins souvent Maxime. Si vous le prenez de ce ton-là, je vous défendrai de le voir absolument. Voilà tout. Et si je refuse de vous obéir ? Vous ne refuserez pas. Et si je refuse ? Insista-t-elle. « Eh bien, répondit Albert avec une colère croissante, une de ces colères froides qui pâlissent le visage, tendent les muscles à les briser et font prononcer d'une voix calme des paroles d'outrance et de fureur. Je commencerai par consigner Maxime à la porte. Vous êtes chez moi ici et je suis le maître. »« Vous me feriez cela, répondit-elle. Vous oseriez me faire cela devant vos domestiques ? Car c'est à eux que vous devrez donner l'ordre de ne plus recevoir Maxime. Entendez-vous, à vos domestiques ? C'est vous qui m'y auriez contraint, dit-il. Vous réfléchirez avant de me pousser à des extrémités que nous regretterions tous deux. Comme vous agirez, j'agirai. Et moi de même, fit-elle avec un rire de défi, mais presque convulsif. Monio la regarda. Craignait-il de s'abandonner si cette conversation continuait à un acte de violence indigne de lui ? Jugea-t-il qu'après son ultimatum, chaque nouvelle phrase diminuerait seulement son autorité ? Il sortit de la chambre en laissant Nicole à des réflexions qu'il espérait raisonnables et qu'il eussent épouvanté sur l'avenir de sa vie conjugale s'il en avait seulement soupçonné la nature. « Ah, c'est comme cela !» se disait-elle. « Et moi qui hésitais ! Moi qui le croyais généreux, délicat. Moi qui me reprochais même mon pauvre petit flirt avec Maxime. Comment, un mot que l'on vient lui répéter, un seul mot, et cela suffit pour qu'il me traite avec cette brutalité ? Que les hommes sont lâches. Le maître, il est le maître ? Ah, nous verrons bien. Et mon père qui, au lieu de me parler à moi, vient lui parler à lui ? Et maman, maman qui me met sur les bras une affaire comme celle-là, sans m'avoir averti non plus. Et pourquoi ? Parce que ce Bassini de malheur a eu l'idée de se mêler de ceux qui ne le regardaient pas. Maman, qui dit toujours qu'il faut vivre et laisser vivre. Non, c'est inconcevable. Elle m'aime tant. Il doit y avoir autre chose. Mais quoi ? Elle si bonne, et une conversation avec ce demi-inconnu l'aurait ainsi montée. Ce n'est pas possible. Oui, il y a autre chose. Je vais bien savoir. S'ils veulent me faire des sottises, ils n'ont qu'à me prendre de cette façon-là. » Ce petit monologue intérieur n'était pas celui d'une femme très amoureuse. Le souvenir de Maxime de Portille ne s'y mêlait même plus. La colère noyait tout dans son flot d'amertume. Mais il est bien rare que la première folie d'une enfant de 25 ans soit le résultat de l'amour. À cet âge, le sentiment de l'indépendance contrariée est le vrai conseiller des coups de tête irréparables. Il était si vif à cette seconde chez Nicole de Monio qu'elle ne put pas se supporter dans sa maison parce que c'était celle de son mari et elle s'habilla pour sortir, quoiqu'elle n'eût pas commandé sa voiture. Elle éprouvait le besoin d'aller, de marcher, de se prouver qu'elle était libre. Elle se trouva dans la rue sans savoir seulement de quel côté elle se dirigerait et, tout naturellement, ses pas la portèrent vers la rue de Montalivet. Elle voulait s'expliquer avec Madame Janson. L'irritation qui crispait ses nerfs lui était physiquement intolérable et, surtout, de rencontrer sans cesse dans ses pensées l'énigme de cette dénonciation faite par Bassini, dont l'image l'obsédait maintenant. Quand elle arriva chez sa mère, celle-ci était sortie. Comme Nicole repassait le seuil pour reprendre sa marche, elle ne savait vers où. Elle aperçut un homme qui la guettait et qui se dissimula dans le renfoncement de la porte cochère d'un hôtel voisin. Elle reconnut son mari. Albert de Moniaud avait été incapable, lui aussi, de dominer le trouble ou de jeter la révolte de la jeune femme, inexplicable pour lui tout autant que l'ingérence de Bassigny l'était pour elle. Quand il avait vu Nicole sortir à pied, sans voiture, l'idée s'était emparée de lui, subite, torturante, irrésistible, qu'elle était la maîtresse de Portille et qu'elle allait à quelque rendez-vous avec lui. Il s'était précipité dans la rue et l'avait suivie. Puis, l'ayant vu qui entrait chez sa mère, il avait rougi de cet espionnage. La crainte d'être surpris dans ce rôle odieux le faisait se cacher avec une maladresse qui, dans une autre minute, aurait sans doute désarmé Nicole en la faisant sourire. Au lieu de cela, elle sentit sa colère redoubler. « Il me file » songea-t-elle. « Il me file ! Non, c'est trop infâme !» Et elle se mit à marcher vite, plus vite encore, prenant une rue transversale, puis une autre. Elle ne se retourna pas une fois, persuadée qu'Albert marchait derrière elle, jusqu'à ce qu'arrivée, par le hasard de cette course insensée, devant un bureau de télégraphe, elle y entra. Une de ces folles et terribles idées que l'appétit furieux d'une vengeance immédiate inspire aux femmes venait de s'emparer d'elle, et un éclair de triomphe dans les yeux, un rire insultant aux lèvres, la main tremblante de ce qu'elle osait faire, elle demanda à l'employé une petite dépêche bleue, et là, sur la petite table commune, tâchant ses doigts à l'ignoble plume enchaînée comme l'encrier de bois qui servait au public, elle écrivit « Je serai demain à 3 heures, rue du Mont-Tabor ». Elle signa « Nicole ». Et sur l'adresse, de la même écriture nerveuse, elle traça « Monsieur le Vicomte Maxime de Portille, 123 rue François Ier ». Quand elle eut jeté à la boîte ce billet de déshonneur, elle s'arrêta un instant sur le trottoir devant le bureau à regarder si la silhouette de son mari n'allait pas apparaître. De le voir à 7 minutes lui eut procuré l'affreuse joie de la vengeance satisfaite. Personne. Elle ne se doutait pas que, depuis la rue de Montalivet, Albert de Moniaud avait cessé de la suivre par remords d'un tel procédé. Elle crut, au contraire, avoir dépisté celui qui, pour elle, en ce moment, n'était qu'un haïssable et abject despote. Elle eut un vrai regret d'y avoir réussi et qu'il ne l'eût pas vu mettre à la poste le télégramme qui la perdait, mais en le déshonorant.